Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs les abbés, mes bien chers amis, il y a maintenant presque un an, notre pape Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, qui avait, il y a quelques années, donné à l'Église, si vous vous en souvenez, une année tout d'abord consacrée à la Sainte Eucharistie, puis une autre au Saint-Rosaire de Notre-Dame. Benoît XVI, donc, nous invita au mois de juin dernier à rentrer dans une année, cette fois-ci, consacrée au sacerdoce, et il le fit à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Ars, qui est le patron de tous les prêtres français et qui est également le patron de tous les curés de l'univers. Votre chapelain a souhaité, pendant ce carême, marquer cette année consacrée au sacerdoce en vous donnant quelques exemples de saints prêtres. Et je terminerai cette série de modèles qui vous furent proposés avec celui justement qui est à l'origine de cette année sacerdotale, Saint Jean-Baptiste Marie Vianney, plus connu sous son vocable de Saint Curé d'Ars. Le pape Jean XXIII, le bienheureux Jean XXIII, il y a 50 ans, en 1959, à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, lui consacra une encyclique entière dans laquelle il écrivait « L'Église, qui a glorifié ce prêtre, admirable par son zèle pastoral et son désir ininterrompu de prière et de pénitence, a aujourd'hui la joie, un siècle après sa mort, de le présenter aux prêtres du monde entier comme un modèle d'ascèse sacerdotale, un modèle de piété et surtout de piété eucharistique, un modèle de zèle pastoral. » Mes bien chers amis, l'Église ne présente pas, n'offre pas comme modèle Saint Jean-Marie Vianney seulement aux prêtres, même si bien sûr il sera un exemple tout particulier pour eux, c'est évident, et nous gagnerions beaucoup, nous prêtres, à contempler davantage, puis à imiter la vie du Saint Curé d'Ars et les vertus sacerdotales qu'il a pratiquées de manière si belle et si généreuse. Mais de manière plus large, l'Église présente la sainteté de cette vie admirable, à chacun d'entre nous. Quand on parle des saints, ou lorsque nous lisons des biographies, nous sommes parfois un peu effrayés, et je crois que cela peut être le cas avec Saint Jean-Marie Vianney, parce que d'un côté, nous nous rendons compte de ce qu'ils ont fait, et de l'autre, souvent, de ce que nous sommes encore bien loin, ne serait-ce peut-être que d'avoir commencé à entreprendre. Et c'est bien vrai que les saints, l'exemple des saints est un puissant appel à nous dépasser et à être un peu plus généreux, en nous rendant compte de leur générosité à eux et de la générosité de ceux qui ont vraiment été les amis de Dieu. Mais aussi, nous devons bien garder à l'esprit, quand nous lisons des biographies, eh bien, nous ne devons pas ensuite, vous le savez, essayer d'imiter servilement l'exemple des saints dont nous avons lu la vie et essayer encore de reproduire à la lettre ce qu'ils ont accompli. Ce n'est pas ce que l'Église souhaite en nous les donnant pour modèle, tout d'abord car nos vocations sont souvent différentes, et ensuite parce que Dieu demande à l'un ce qu'il ne demandera pas à l'autre, tout simplement parce que nous n'avons pas le même nombre de talents dans notre sac. Chaque être humain est un être unique aux yeux de Dieu, et unique est également l'appel personnel que Dieu lance à chaque âme. Dieu nous aime individuellement. individuellement et il ne nous fait pas en série. Alors comment vais-je procéder pour parler du Saint-Curé d'Ars? Je ne vous en donnerai pas une biographie chronologique, mais j'essaierai de traiter différents points ou différentes caractéristiques marquantes de sa vie qui sont des clés peut-être dans sa spiritualité, sans avoir la prétention d'être exhaustif. Et la première chose que je voudrais dire sur Saint Jean-Marie Vianney, c'est que c'est un saint qui est particulièrement impressionnant et attirant. Impressionnant car si l'on regarde un peu son parcours hors du commun, d'un côté nous pensons tous à ses pénitences sanglantes, à ses disciplines pour la conversion des pécheurs, ou encore à ses journées exténuantes au confessionnal, dans le froid en hiver ou dans la chaleur en été, il s'y est évanoui plusieurs fois. Ou encore nous songeons à ses repas plus que frugaux, ou encore aux persécutions de celui qu'il appelait le grappin. Et quand nous réfléchissons à tout cela, eh bien, nous pouvons nous demander comment humainement il a pu tenir à un tel rythme. Et d'un autre côté, il est attirant car il semble accessible. Il semble proche de nous car il n'avait pas, semble-t-il, de prédisposition particulière de par ses origines sociales, de par son intelligence qui aurait été extraordinaire. Et là, le bon Dieu nous donne une leçon magnifique aux yeux de tous. Le Saint-Curé d'Ars était au départ, il faut le dire, une sorte de raté. Dans ses études, qu'il ne fera que tardivement et avec combien de peine pour retenir ce qu'il essayait d'apprendre, il sera renvoyé du séminaire dans la paroisse qu'il dégote également. Il était difficile de trouver paroisse plus petite et plus pauvre dans le diocèse, ce qui montre bien la confiance, ou plutôt l'absence de confiance qu'on lui portait. Au moins, se disait-on, il ne fera pas trop de mal. N'oublions pas également qu'après son ordination, il n'aura tout d'abord pas les pouvoirs de confession, lui qui passera pourtant plus tard des journées entières au confessionnal. Les grandes espérances n'étaient pas placées en lui, et pourtant aujourd'hui, il est le grand modèle du prêtre proposé par notre Saint-Père le Pape. Et cela doit être pour nous un encouragement extraordinaire. Dans nos petites vies spirituelles, tous les espoirs sont permis, tout est possible, c'est-à-dire que nous pouvons nous sanctifier et même devenir des saints, quelles que soient nos qualités apparentes, si nous suivons l'appel de Dieu sur notre âme, quel qu'il soit, quand même, celui-ci semblerait impossible à réaliser. Le succès aux yeux de Dieu, chez un prêtre bien sûr, nous voyons avec Saint Jean-Marie Vianney, mais également chez chacun d'entre vous, la réussite aux yeux de Dieu ne correspond pas forcément à la science ou encore à un charisme particulier ou à une école de pensée ou aux qualités naturelles. Non, ce qui fait la beauté d'une âme aux yeux de Dieu, c'est au contraire sa grande humilité, son union à Dieu qui, comme pour Saint Jean-Marie Vianney, le poussait toujours davantage à disparaître, à diminuer, pour mieux laisser Dieu croître en lui. Écoutons-le nous dire: « Le bon Dieu m'a choisi pour être l'instrument des grâces qu'il fait aux pécheurs, parce que je suis le plus ignorant et le plus misérable de tous les prêtres. S'il y avait eu dans le diocèse un prêtre plus ignorant et plus misérable que moi, Dieu l'aurait pris de préférence. Et soyez sûr d'une chose, il le pensait du fond du cœur, et c'est pour cela qu'il suppliera pendant tant d'années son évêque de le laisser partir à la trappe pour y finir sa vie en pleurant ses péchés. Humilité du Saint-Curé d'Ars que nous pouvons déjà, que nous devons imiter, quelle que soit notre vocation. Dieu se sert des faibles pour confondre les forts, comme le disait saint Paul. Le Saint-Curé d'Ars l'avait compris. Si nous apprenons à être humbles, Dieu réalisera de grandes choses en nous. Notre saint disait encore, quand je pense à mon néant et à ma misère, je tremble tellement que je ne peux plus signer mon nom. Mon Dieu, il me faudra donc paraître devant vous, mes mains vides. Avant de parler du Saint-Curé d'Ars lui-même, je voudrais rendre hommage à ses parents, tous les deux très pieux, et en particulier à sa maman, Marie Vianney, qui lui a appris, comme toutes les bonnes mères, à faire son signe de croix, à prononcer les saints noms de Jésus et de Marie, à dire ses premières prières. On sait que le jeune Jean-Marie Vianney la suivait partout quand il était petit, qu'il l'interrogeait, qu'il buvait ses paroles, et qu'elle, elle le conduisait avec elle à la messe tous les jours quand il avait 4 ans, et elle l'emmènera également par la suite aux offices clandestins des prêtres réfractaires pendant la Révolution. Quand plus tard on interrogera le Saint-Curé d'Ars et qu'on le félicitera pour son goût de la prière et de l'autel, il dira avec émotion: après Dieu, je le dois à ma mère. Elle était si sage. La vertu, poursuivra-t-il, la vertu passe facilement du cœur des mères dans le cœur des enfants. Jamais un enfant qui a eu le bonheur d'avoir une bonne mère ne devrait ni la regarder, ni penser à elle sans pleurer. Et on voit dans ces quelques lignes toute la beauté, toute l'importance, toute la responsabilité extraordinaire de la vocation si belle de mère. Dans la vie du Saint-Curé d'Ars, il y a un moteur, une constante que l'on retrouve derrière chacune de ses actions. Et ce moteur, bien sûr, c'est l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu qui va se traduire, qui se traduit toujours par la prière. Le curé d'Ars, depuis son enfance jusqu'à sa mort, a vécu une vie de prière. Et d'ailleurs, la statue la plus fameuse que nous connaissons de lui, la statue de Cabuchet, cet artiste qu'il avait réalisé à son insu pendant des cours de catéchisme, cette statue l'a immortalisée à genoux dans la position de celui qui prie les yeux levés au ciel. Et c'est bien comme cela que nous le représentons. Le trésor d'un chrétien, disait-il, n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller là où est notre trésor. Il disait également, plus on prie, plus on veut prier. Quand on est devant Dieu, les heures passent comme des minutes. Un jour qu'il était dans la forêt, il se mit à pleurer en entendant les oiseaux chanter, et quand on lui demanda la raison pour ceci, il répondit tout simplement: les oiseaux ont été créés pour louer Dieu, pour chanter, et ils chantent, et nous avons été créés pour louer Dieu, et nous ne le louons pas. La première chose donc dont il faut parler avec notre saint, c'est bien, je crois, de la prière, car sans celle-ci, il n'y aurait pas eu ces milliers de confessions, ces milliers de conversions et tous les prodiges d'Ars que nous connaissons. ceux-ci sont dus à la prière persévérante du saint. D'après les témoignages que nous avons de sa vie, nous pouvons grossièrement distinguer trois étapes ou trois périodes dans cette vie, celle de son enfance jusqu'à son ordination sacerdotale, puis ses premières années sacerdotales à Ars, jusqu'au développement du pèlerinage, et enfin la troisième étape de sa vie sera marquée par ses années surchargées du soin des dizaines de milliers de pèlerins qui se rendaient dans ce village. On les estime pour la dernière année de sa vie à peu près 100 000 pèlerins. La première période est marquée par une prière très fréquente dans le travail, dans les occupations quotidiennes. Le petit Jean-Marie Vianney n'était pas encore prêtre, loin de là, mais par contre déjà il priait. Et cette prière lui semblait toute naturelle. On peut penser à cet épisode connu quand il bêchait la terre avec son frère aîné et où, pour se donner du courage, il avait pris avec lui sa petite statue en bois de la Sainte Vierge qu'il jetait loin, loin devant lui, aussi loin qu'il pouvait, et il bêchait ensuite de toutes ses forces pour l'atteindre et la retrouver plus vite. On peut penser encore à sa mère le cherchant un jour, il avait 4 ans, l'appelant, n'entendant pas de réponse, le cherchant encore et le retrouvant finalement à genoux dans la grange entre deux animaux. Il dira lui-même plus tard, « J'étais bien heureux dans la maison de mon père. Lorsque je menais paître mes brebis et mon âne, j'avais du temps pour prier le bon Dieu, pour méditer, pour m'occuper de mon âme. » Cette première période de sa vie est également marquée par le temps considérable donné à la prière. Il l'a dit encore, dans l'intervalle des travaux à la campagne, je faisais semblant de me reposer, de dormir comme les autres, et je priais Dieu de tout mon cœur. C'était le bon temps, que j'étais heureux. Et cette petite phrase est très belle, que j'étais heureux, disait-il, car c'est vrai, les saints ont été heureux, ils ont été plus heureux que nous, car ils aimaient Dieu davantage et ils passaient du temps avec lui. Il fut enrôlé, on ne le sait pas toujours, il fut enrôlé dans les armées napoléoniennes, conscription oblige, et il se retrouva déserteur malgré lui, il s'était endormi et son régiment était parti pendant son sommeil. Il dut alors se cacher chez une dame, une certaine Madame Fayot, parce que les déserteurs étaient recherchés et fusillés. Et là, chez cette dame, il dormait, il partageait son lit avec un de ses enfants qui avait 13 ans. Et ce garçon, qui se faisait passer pour son cousin, ce garçon, au bout de 3 jours, ira se plaindre à sa mère en disant qu'il ne peut pas dormir, car Jean-Marie Vianney passe ses nuits à prier. Son beau-frère disait aussi, je ne sais ce qu'il faisait, mais toutes les nuits, il usait une chandelle. La deuxième période de sa vie, celle de ses premières années sacerdotales, est marquée par la durée des prières faites à l'Église. Jean Pertinent, instituteur, nous dit dans les commencements de son ministère à Ars, il allait régulièrement à l'église à 4 heures du matin et restait en adoration au pied des autels jusqu'au moment de la messe qu'il disait vers les 7 heures. Catherine Lassagne, qui sera sa fidèle associée et la directrice de l'école, de l'orphelinat qu'il ouvrira, complète cette affirmation en disant « Les premiers temps qu'il était curé d'Ars, son bonheur était de passer des temps considérables du jour et de la nuit à l'église devant le Saint-Sacrement. On le trouve presque à toutes les heures du jour devant le Saint-Sacrement et toujours à genoux. Il est passé aussi, ajoute-t-elle, une partie de la nuit à l'église. Le Saint curé d'Ars, avec un brin d'humour, dira « Le bon Dieu aime à être importuné. » Et cela doit être un exemple pour les prêtres, bien sûr. La fécondité du ministère sacerdotal dépend du temps passé au pied des tabernacles. Notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, il y a quelques mois, disait aux prêtres à qui il s'adressait « Nous devons toutefois nous convaincre, le moment de la prière est le plus important dans la vie du prêtre, celui où agit avec le plus d'efficacité la grâce divine en donnant la fécondité à son ministère. Prier est le premier service à rendre à la communauté, et pour cela, les moments de prière doivent avoir dans notre vie une véritable priorité. Je sais que tant de choses nous pressent, pour ce qui me concerne, disait-il, une audience, une documentation à étudier, une rencontre ou une autre encore, mais si nous ne sommes pas intérieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons rien donner, pas même aux autres. C'est pourquoi elle est la première priorité. Pendant la troisième période de la vie de Saint Jean-Marie Vianney, à cause de la grande affluence des pèlerins qui se rendaient à Ars, il ne pourra plus consacrer exclusivement à la prière que peu de temps chaque jour. Alors, il prie la nuit pendant ses insomnies, et il disait que ses prières pendant ces nuits courtes, le dédommageaient des fatigues du jour. Pendant cette dernière période, il souffrira beaucoup justement de ne pouvoir donner davantage de temps à la prière. « Je sèche d'ennui sur cette pauvre terre. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mes oreilles n'entendent que des choses pénibles et qui navrent le cœur. Je n'ai plus le temps de prier le bon Dieu. Je ne peux plus tenir. » Et on peut penser encore à son rêve qui a duré toute sa vie sacerdotale, son rêve de se rendre dans une trappe pour expier ses péchés et pour prier. Alors, quelles étaient les formes de sa prière? Ses biographes notent qu'il était, je cite Monseigneur Trochu, « ennemi des dévotionnettes ». Il prêchait pour les fidèles le chapelet, l'Angélus, les oraisons jaculatoires et bien sûr, nous allons en reparler, l'assistance au saint sacrifice de la messe. Et c'est encore une très bonne règle de vie et de prière pour les fidèles aujourd'hui, car ces prières simples, le chapelet, l'Angélus, les oraisons jaculatoires peuvent se dire partout et par cœur. Mon Dieu, je vous aime, tout simplement, invocation simple, mais qui nous maintient au cours de la journée dans un élan vers Dieu. Au temps du Saint-Curé d'Ars, il avait tellement transformé son village, transformé l'âme de ses paroissiens, cette paroisse où son évêque lui avait dit au départ, en l'envoyant, il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans cette paroisse, vous en mettrez. Il avait donc tant et si bien changé les âmes et changé les cœurs que quelques années après être arrivé, quand l'heure sonnait à l'église pendant la journée, on voyait dans la rue, spectacle extraordinaire, les paroissiens s'arrêter de marcher, se découvrir, faire un signe de croix, réciter un ave. Le Saint-Curé d'Ars a conduit son village au ciel. Dans l'énoncé de cette petite conférence que j'ai donnée à la Belle Roue il y a 3 mois, je ne savais pas trop quoi mettre, et j'ai pris cette phrase célèbre de notre saint arrivant à Ars. Il était perdu, il rencontre un petit berger, Antoine Givre, qui lui indique son chemin, et notre saint lui répond: « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Et cela a été immortalisé sur ce monument qu'on appelle justement le monument de la rencontre, qui a été bâti à cet endroit depuis. Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Le saint curé d'Ars disait encore: la prière est l'échelle mystérieuse qui conduit au ciel. Il n'y a pas de secret, nous devons prier, et nous pouvons demander à saint Jean-Marie Vianney la grâce de prier davantage, car cette prière nous conduira au ciel. Et fait amusant, de par la providence de Dieu, notre saint avait dit au petit Antoine Givre: « Je te montrerai le chemin du ciel, programme, mais également prophétie, car Antoine Givre sera le premier paroissien à suivre notre saint dans la tombe en décédant quelques jours après lui. Je te montrerai le chemin du ciel. » Pour ce qui regarde le bréviaire, les témoignages servis disaient: le serviteur de Dieu disait son office à l'église et à genoux. Il était tellement recueilli qu'il ne s'apercevait ni de la foule qui l'environnait, ni du bruit qui pouvait se faire. Souvent, il faisait des pauses en disant son office et regardait le tabernacle avec des yeux où se peignait une joie si vive qu'on aurait pu croire qu'il voyait notre Seigneur. Un prêtre disait encore: il aimait tellement le livre du bréviaire qu'en allant et venant, il le tenait presque toujours sous son bras. Comme je lui en demandais la raison, il me répondit: le bréviaire, c'est ma fidèle compagne. Je ne saurais aller nulle part sans lui. Pour la messe, et là par contre, je crois que notre saint a beaucoup à nous apprendre, beaucoup plus à vous apprendre que pour ce qui regarde le bréviaire, les témoignages abondent. Il apparaît clairement que dans sa vie, la messe, la sainte messe, était le centre de tout. L'assistance à la messe, disait-il, l'assistance à la messe est la plus grande action que nous pouvons faire. Que c'est beau. Après la consécration, le bon Dieu est là, comme dans le ciel. Si l'homme connaissait bien ce mystère, il mourrait d'amour. Dieu nous ménage à cause de nos faiblesses. Benoît XVI, le 24 juin dernier, à l'audience générale, redonnait cette phrase du saint curé d'Ars qui devrait faire trembler tout prêtre, à commencer par moi-même. Combien est triste un prêtre qui célèbre la messe comme un fait ordinaire. Combien s'égare un prêtre qui n'a pas de vie intérieure. Pour ce qui le concerne, le saint curé d'Ars se recueillait 15, 20 minutes avant le saint sacrifice, à genoux sur les dalles du chœur, les yeux fixés sur le tabernacle, et frère Athanase, au procès de l'ordinaire, dira qu'alors rien n'était capable de le distraire. Quand nous arrivons, mes bien chers amis, à l'église, nous aussi apprenons à nous mettre en présence de Dieu et demandons-lui de bien préparer notre âme au saint sacrifice de la messe. Une fois rentré à la sacristie, il permettait qu'on lui adresse seulement des paroles absolument nécessaires. Si on parle beaucoup, évidemment, des confessions dans la vie du saint curé d'Ars, ces confessions qui lui arrachaient des larmes en voyant Dieu offensé, et qui lui valurent de dire un jour: non, il n'y a rien au monde de plus malheureux qu'un prêtre. À quoi passe-t-il sa vie? À voir le bon Dieu offensé. Le prêtre ne voit que cela. Il est toujours comme Saint-Pierre au prétoire, Il a toujours sous les yeux notre Seigneur insulté, méprisé, couvert d'opprobre. Oh, si j'avais su ce qu'était un prêtre, au lieu d'aller au séminaire, je me serais bien vite sauvé à la trappe. Et pour la messe, il en était tout autrement. La messe, c'était sa joie. Connaissant sa valeur infinie, il n'aurait voulu s'en excuser pour rien au monde, et on sait que quand il fut très faible et très malade en 1843, 16 ans avant sa mort, et qu'on pensait qu'il allait mourir, il se faisait pourtant porter à l'église à 3 heures du matin, à jeun, pour pouvoir célébrer la messe. Au moment de la messe, note Monseigneur Trochu, il semblait s'oublier. Plus une ombre de tristesse sur son visage. Mes chers amis, si vous avez des soucis, des peines, des croix, des afflictions diverses, et même des joies, eh bien, offrez-les vous aussi au Saint-Sacrifice de la messe. Mettez-les sur la patène avec l'hostie que le prêtre offre à l'offertoire et associez-les au sacrifice du Christ. Mélangez-les au calice de souffrance de notre Seigneur comme la petite goutte d'eau se mêle au vin. Au moment de la messe, disent les témoignages, encore une fois, plus une ombre de tristesse sur son visage. S'il disait que nous ne comprendrons la messe qu'au ciel, il n'en était pas effrayé. Il disait, je ne voudrais pas être curé de paroisse, mais je voudrais bien être prêtre, je suis bien content d'être prêtre, pardon, afin de célébrer la messe. On ne comprendra le bonheur qu'il y a de dire la messe que dans le ciel. Dans la célébration, il procédait sans lenteur. Monseigneur Convert, qui était un disciple du Saint, écrivit « Cette idée qu'il avait du Saint-Sacrifice était cause aussi du respect qu'il professait pour la Sainte Liturgie. Il en observait les moindres détails avec une parfaite exactitude. » Monseigneur Trochu écrit encore « Ceux qui ont eu le bonheur d'assister à sa messe ont remarqué la transfiguration qui se produisait alors dans toute sa personne. Il en avait tellement conscience qu'il recommandait aux orphelines de la Providence de ne pas regarder le prêtre qui est à l'autel. Le martyr, disait-il, n'est rien en comparaison de la messe. C'est le sacrifice que l'homme fait à Dieu de sa vie, la messe est le sacrifice que Dieu fait à l'homme de son corps et de son sang. Sa foi dans la Sainte Eucharistie, dans le Saint-Sacrifice de la messe, était touchante. Jusqu'à la consécration, je vais assez vite, mais après la consécration, je m'oublie en tenant notre Seigneur dans mes mains. Et il disait qu'à ce moment-là également, quand il le tenait dans ses mains, il lui demandait des grâces particulières que Dieu ne pouvait pas lui refuser. Quand notre Seigneur est sur l'autel pendant la Sainte Messe, dès qu'on le prie pour le pécheur, il lance vers eux des rayons de lumière pour leur découvrir leur misère et les convertir. À des personnes qui venaient le consulter, lui demander des conseils, il répondait « Attendez après ma messe, car ces lumières, il les obtenait au cours du Saint-Sacrifice. » Il faut revenir et insister un peu sur son culte envers la Sainte Eucharistie. Sa foi intense, cette foi que nous pouvons demander, que nous devons demander à Dieu d'augmenter nos âmes, sa foi intense lui permettait de réaliser, pour ainsi dire, cette présence réelle. Si nous avions la foi, disait-il, nous verrions Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement comme les anges le voient au ciel. Lorsque nous sommes en route et que nous apercevons un clocher, cette vue doit faire battre notre cœur, comme la vue du toit où demeure son bien-aimé fait battre le cœur de l'épouse. On a rendu de lui ce témoignage. Il parlait souvent de la présence réelle de notre Seigneur et il le faisait avec un tel accent de conviction ses paroles allaient à l'âme. Quelquefois, la respiration lui manquait et il demeurait comme en suspens. Et on connaît cet épisode fameux où dans un sermon il parlait de la Sainte Eucharistie et en désignant le tabernacle pendant plusieurs minutes, il ne pouvait plus que dire « Il est là » tant les mots étaient noués dans sa gorge. Et évidemment, ce sont de tels mots et de telles attitudes qui retournaient et qui convertissaient les fidèles. Au sujet de la communion, si l'on pouvait comprendre tous les biens renfermés dans la Sainte Communion, disait-il, il n'en faudrait pas davantage pour contenter le cœur de l'homme. L'avare ne courrait plus après ses trésors, l'ambitieux après la gloire. Chacun quitterait la terre en secouant la poussière et s'envolerait vers le ciel. Mettez toutes les bonnes œuvres du monde contre une communion bien faite. Ce sera comme un grain de poussière devant une montagne. Ô homme, que tu es heureux, mais tu comprends peu ton propre bonheur, disait-il. Et il est bon, c'est vrai, de toujours nous examiner sur nos saintes communions, en particulier sur notre action de grâce. La foi profonde du Saint-Curé sur ce sacrement, en célébrant et en communiant, lui a valu des grâces particulière. Quand on fait la Sainte Communion, on sent quelque chose d'extraordinaire, un bien-être qui parcourt tout le corps et se répand jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce que ce bien-être, disait-il, c'est notre Seigneur qui se communique à toutes les parties de notre corps et les fait tressaillir. Ceux qui ne sentent tout à fait rien sont bien à plaindre. Pour revenir à la célébration du Saint-Sacrifice, bienheureux Jean 23, dans son encyclique sur Saint Jean-Marie Vianney, note cette citation du saint. La cause du relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait pas attention à la messe. Et il avait l'habitude de s'offrir en sacrifice pour les pécheurs, versant d'abondantes larmes en pensant au malheur des prêtres qui ne correspondent pas à la sainteté. Et le pape ajoute, d'un cœur paternel, nous demandons à nos chers prêtres de s'examiner régulièrement sur la façon dont ils célèbrent les saints mystères et surtout sur les dispositions spirituelles avec lesquelles ils montent à l'autel et sur les fruits qu'ils s'appliquent à en retirer. Le centenaire de ce prêtre admirable qui puisait dans la consolation et le bonheur de célébrer la Sainte Messe, le courage de son propre sacrifice, les y invite. Enfin, puisque la messe était le cœur de sa vie, de sa journée, de son ministère, puisqu'il utilisera toujours les plus beaux ornements, les plus beaux vases sacrés pour son célébration, que l'on voit encore au musée, Mgr Trochu note qu'il lui souhaitait un calice d'or massif, car le plus beau qu'il posséda ne lui semblait pas encore digne de contenir le sang de Jésus-Christ. Possède encore ses témoignages, ses retours de Lyon, quand il avait été acheté des ornements ou des vases sacrés, il était alors, montrant ses achats, comme un enfant déballant ses cadeaux. Mgr Trochu écrit encore, il raconte l'arrivée de caisses d'étoffes liturgiques à Ars, offertes par le vicomte des Garets. S'il y eut un homme dans la jubilation, à l'arrivée des cadeaux du généreux vicomte, ce fut le curé d'Ars. Il paraît que c'était plaisir de le voir et de l'entendre à l'ouverture des lourdes caisses que les paroissiens de bonne volonté allèrent chercher jusqu'à Lyon. Il riait et pleurait à la fois comme un enfant. « Ma mère, disait-il à une bonne vieille qui passait, venez voir une belle chose avant de mourir. » Bientôt, un groupe d'admirateurs admirait ses trésors. « Ah, au ciel !» Pape Benoît XVI, le 5 août dernier, et je conclurai avec cette partie, le pape Benoît XVI rappelait que dans son enfance, le Saint-Curé d'Ars avait confié à sa mère « Si j'étais prêtre, je voudrais conquérir beaucoup d'âmes. dans sa lettre d'indiction pour l'année sacerdotale, Benoît XVI rappelait également la prière avec laquelle Saint Jean-Marie Vianney commença sa mission. « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir ce que vous voulez tout le temps de ma vie. » Et la prière du Saint-Curé d'Ars dont nous avons parlé va avoir cette caractéristique qu'elle sera une supplication constante pour la conversion des pécheurs. La conversion des pécheurs le hantait. Et c'est pour cela qu'il fera tant de pénitences toute sa vie. C'est pour ça qu'il passera tant d'heures au confessionnal, consacrées au retour des pécheurs à Dieu. Et on retrouve également ce souci, qui est le souci du prêtre, dans sa prière. Le Saint-Curé d'Ars demandait des prières pour la conversion des pécheurs en général. Que d'âmes vous pouvez ramener à Dieu ? Par la prière. Il disait encore, la prière est toute puissante auprès de Dieu. Dieu est facile à gagner par la prière. Si l'on pouvait prier en enfer, l'enfer n'existerait plus. Prier pour les pécheurs, disait-il, c'est la plus belle et la plus utile des prières, car les justes sont sur le chemin du ciel. Les âmes du purgatoire sont sûres d'y entrer, mais les pauvres pécheurs, toutes les dévotions sont bonnes, mais il n'y en a pas de meilleure que celle-là. On sait que la conversion des pécheurs sera vraiment une des pensées principales de sa vie quand il sera découragé et qu'il aura sa crise vocationnelle chez M. Ballet, son protecteur, et qu'il décidera d'arrêter les études pour être prêtre. Il suffira que celui-ci lui dise « Adieu les âmes ». Et c'est cette petite phrase qui le décidera à persévérer. C'est cette même conversion des pécheurs qui le fera passer tant d'heures au confessionnal et qui le fera revenir quand il fut gras pour la trappe. Son premier départ en 1840 ne fut pas un grand départ. Arrivé à une grande croix non loin d'Ars, il s'arrêta. Il se prit à réfléchir. Est-ce bien la volonté de Dieu que j'accomplis en ce moment? La conversion d'une seule âme ne vaut-elle pas mieux que toutes les prières que je pourrais faire dans la solitude? Et il repousse un chemin. Et sa troisième tentative de départ vers la trappe le verra faire demi-tour quand des pénitents lui demanderont à se confesser. Quand on parle du Saint-Curé d'Ars, nous pensons tout de suite au confessionnal où il passa 15, 16, même 18 heures par jour. Ce confessionnal où tant de miracles se sont opérés, tant d'âmes ont été réconciliées avec Dieu, tant d'âmes ont été pacifiées. Ce confessionnal est un miracle et une preuve de la sainteté de notre saint. Nous n'aimons pas beaucoup nous confesser, c'est quelque chose qui nous est désagréable, que nous faisons avec peine. À Ars, les gens prenaient le train, le bus, venaient de régions très éloignées, précisément pour se confesser au Saint-Curé d'Ars. Eh bien, demandons à Dieu en conclusion, demandons à notre saint de nous donner, à nous prêtres, son ardeur, son amour de Dieu et son amour des âmes, qu'il nous donne d'être bons au confessionnal et qu'il vous donne à vous, mes bien chers amis, ce qu'il a donné à tant d'âmes de son vivant, c'est-à-dire l'amour du sacrement de pénitence, mais surtout et avant toute chose, de marcher à sa suite sur le chemin de la vie.